Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de Angle Mort édition spéciale. Il n'y a pas vraiment de titre encore. Pourquoi c'est le premier épisode? Bon, ben le podcast existe de façon quotidienne, audio, moi tout seul au combat, depuis presque un an. Et puis souvent, on me dit, tu vas-tu avoir des invités, etc. Puis c'est un ami à moi, Dominique Fortin, qui m'a dit, pourquoi tu ne fais pas un Angle Mort le vendredi avec un invité? Vous revenez sur les quatre épisodes de la semaine, donc les quatre sujets que j'ai abordés, moi tout seul au combat, avec mon iPhone, comme je vous explique souvent, du lundi au jeudi, mais le vendredi, j'aurai maintenant un invité et l'intégrale de ça sera disponible pour mes membres Patreon. Et mon premier invité, eh ben là, je me suis gâté épouvantable. Il s'agit de Michel Grenier, bien connu du monde des podcasts et de l'humour. Salut, Michel!
Salut!
Hey, c'est vraiment génial que tu sois là parce que, c'est pas tout le monde qui te connaît. Il faut être dans le domaine de l'humour, podcast plus. Puis j'espère qu'il y a plein de monde qui me suivent, moi, et puis qui sont des amateurs de radio ou autres qui vont te découvrir. Nous autres, on se connaît depuis 20 ans, puis on a pratiqué le même métier pendant une dizaine d'années que toi, tu as poursuivi et tu as spécialisé, c'est-à-dire la gérance.
Je ne suis pas un peu comme Marc Boilard.
Bon, alors, tu ne recommences pas tout le temps à zéro.
Non.
Mais ce que j'aimerais que tu parles au début, là, avant qu'on rentre dans les quatre sujets de la semaine qu'on a traités et que tu as écouté, là, je suis ravi de ça. J'aimerais ça que tu parles un peu de ton parcours, ce que tu fais, tes clients, etc. Juste pour qu'on fasse une mise en situation de Michel Grenier pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
Super simple, je viens de Victoriaville, je suis de la gérance depuis le début des années 90, j'ai commencé avec les Chickenswell, je m'occupe présentement de cinq artistes qui sont Mike Ward, Pierre-Yves Roy Desmarais, Yannick Demartino, Daniel Grenier et Guillaume Wagner.
Fait que toi, tu as fait de la gérance et de la coprod aussi parce que tu t'es...
Oui, t'es tout Mike, temps... Guillaume et Daniel, c'est ce que je fais.
Bon, puis au niveau des podcasts, tu es devenu un peu un genre de personnage principal dans Sous-écoute. Là, les gens qui suivent le podcast à Mike, qui te connaissent très bien, etc. Comment tu t'es inséré dans ça au début? Là? Comment c'est arrivé les premiers moments où tu es devenu, entre guillemets, visible?
Mais je vais t'avouer que la façon que moi, je travaille avec mes artistes, c'est que j'aime ça être présent, j'aime ça être avec eux, j'aime ça les suivre. Et quand tu suis toujours tes artistes, ben les autres artistes te voient. Fait que quand Mike, sur scène, à Sous-écoute, racontait des anecdotes, ben je suis tout le temps des anecdotes. « Hey, j'étais avec Michel à telle place, j'étais avec Michel à telle place, j'étais avec Michel à telle place. » Fait que veux, veux pas, Michel, c'est qui Michel, c'est qui Michel? Puis, il y a eu ça, déjà. Plus, il y a Jerry Allen qui est venu faire un épisode qui était bien saoul, qui n'arrêtait pas de gueuler « Signe-moi Michel ». C'est devenu un T-shirt. Anecdote rapide, je suis allé en Belgique il y a 2 ans avec Pierre-Yves Roy Desmarais et Sam Boisvert. En Belgique, je me suis fait crier dans un bar « Signe-moi Michel ». C'est fou, là, tu sais, tu comprends?
C'est malade.
C'est fou. Fait que le web, c'est « je suis qui ». La télé, le sait pas parce qu'à la télé, c'est des belles personnes. Fait qu'on ne sent pas au courant trop qu'est-ce qui se passe.
T'es barré encore par la télé, c'est pas à cause
barré.
De ton propos édifiant, c'est à cause de
ton look. Barré. Non, mais honnêtement, j'avais choisi, ça qui est bizarre, c'est que j'ai toujours choisi d'être dans l'ombre, mais ça ne me dérange pas d'aller dans la lumière parce que dans le monde des podcasts, quand j'ai commencé, tu sais, tout le monde t'invite, mais ils font comme « T'es qui, toi? » Tu sais, c'est dur d'inviter quelqu'un dans un podcast, tu sais, c'est vraiment dur. Puis moi, je me suis fait comme une obligation que ça, un podcast m'appelle en souvenir des débuts de
Ouais, 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 ouais.
Sais-tu quoi? Je vais y aller. La semaine passée, j'ai fait un podcast pour un jeune de Sherbrooke, 20 ans. Il m'a dit, hey Michel, je veux te tenir à mon podcast. Il y en a comme 4 de fête. Je suis allé. Tu comprends? Tu sais, je lève la main, je suis présent. Tu sais, j'ai des anecdotes à raconter, j'ai de l'expérience. Puis j'ai fait, tu sais, c'est ça. C'est intéressant de voir le backstage de l'histoire.
Absolument. Puis aujourd'hui, on ne s'en tirera pas parce que tu tombes sur une semaine où dans Angle Mort, 2 de mes épisodes étaient complètement liés médias, showbiz, etc. Ouais. Ça fait que je suis certain qu'on va avoir plein d'affaires à se passer. On va commencer par l'épisode de lundi. Qui s'appelait « Nouvelle loi sur les accidents du travail ». Oui, mais peut-on penser aussi à l'avant? Ce que j'ai raconté pour ceux qui n'étaient pas nécessairement au quotidien, c'est que le ministre Boulet, il est en train de faire une loi qui va renouveler, si tu veux, la santé et sécurité au travail, la loi 59. Puis, entre autres, il va rajouter des maladies dites professionnelles. Exemple, le burn-out, ce n'est pas une maladie reconnue par la CSST. Moi, je trouve que l'initiative est super intéressante, mais en même temps, je me rends compte que souvent, on intervient quand il est trop tard. Puis c'est toute la section de savoir dire non. C'est très subtil. Qu'est-ce qui fait qu'au final, on évite le burn-out? Le burn-out, là, rarement, moi j'étais surpris de ça, Mais rarement, c'est parce qu'on a réellement trop travaillé. En français, tu le sais, Michel, ils disent épuisement professionnel. Mais le trois quarts du temps, moi, j'ai vécu de quoi qui a passé proche à ça. C'est pas parce que j'étais brûlé, j'étais en pleine forme, mais j'étais pas à ma place. C'était le début de Juste pour rire. Quand j'étais arrivé, c'était comme un cirque. Ça fait que j'ai halluciné puis j'ai craqué. Tu sais, il a fallu que je donne les clés de ma business pendant un mois. Quand je suis revenu, j'étais supposé être reposé, mais le problème était encore là. C'est-à-dire, j'étais pas à bonne place. Fait que je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as à dire puis sur quoi tu rebondis par rapport à ça.
Ben moi, c'est sûr et certain que dans les dernières années, tu sais, vu que je m'occupe de Mike, ça a été, tu sais, le fait de, tu sais, quand tu dis que de ne pas être à sa place, moi, dans une cour, je ne suis peut-être pas à ma place, tu sais, toi, je suis pratiqué avocat, mais de voir toute la haine que le web avait à donner, à un moment donné, ça devient juste trop, tu sais, puis comme tu dis, des fois, tu te sens en forme, tu te sens en possession de tes moyens, mais je pense que j'ai vécu un peu pas en même temps, mais un peu à vers la fin de Mike, tu sais, un peu plus. Je te dirais que ça l'a beaucoup effrité. Tu sais, le stress matin plus maintenant. Et j'ai une anecdote là-dessus assez punchée. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est que le corps humain, on fait un test une fois par année ou une fois deux ans. Tu sais, pisse d'un plat, prend du sang, on fait tout ça. Tu sais. Mais en dedans, nous autres, on ne fait jamais de test de ce qui se passe là-dedans.
Exact.
Ça contrôle toute la patente. Fait que je vais parler de quelque chose de très personnel, mais cette année, Yannick Demartino m'a acheté un cadeau de Noël. Okay. Et mon cadeau de Noël, c'était une consultation pour aller chez le psy.
Hein, c'est hot. C'est une première fois de ma vie que j'entends ça.
Parce que je vais t'avouer que j'en parlais avec, je me disais, ah, Sophie, il me semble que c'est dur parce que la période qu'on vit présentement, c'est très, très. Pour l'anxiété, c'est pas super. Tu comprends? C'est et surtout, le milieu artistique, c'est le milieu qui s'est fait dire en premier, toi, reste chez vous. Fait que là, tu fais, bon, mais faut que je reste chez nous. Il faut que je reste chez nous. Fait que. Je vais t'avouer que toute l'année, je chentais comme des douleurs ou tu sais, je me sentais pas bien. Puis là, j'en avais parlé à Yannick, j'en parlais. Puis là, parce que Yannick consulte, puis il est pas gêné de ça. Puis tu sais, lui, il pense que c'est important de les consulter. Puis il m'a dit, vas-y, je te paye ça. Fait que j'ai été consulté. j'ai été rencontré, j'ai fait quatre rencontres. Puis au bout de quatre, j'ai fait quatre rencontres. J'ai fini, là. La quatrième, tu sais, j'ai tout raconté. J'ai tout vidé mon sac. Puis au bout de la quatrième, il m'a dit, « Ben, tu m'apparais pas avoir des problèmes. » Tu sais, tu comprends-tu? T'as rien à régler. Ouais. T'as l'air en contrôle de ta vie, tout. Fait que retourne chez vous. Fait que ça m'a coûté genre 300, 400, 500 piastres pour me faire dire que ça va bien en haut. Tu sais, mais il m'a donné des petits trucs. Tu sais, il m'a dit, « Ah, corrige ça. »
Exemple. Mettons deux, trois trucs que tu trouves qui méritent qu'on les écoute parce que c'est peut-être bon pour tout le monde.
Tu sais, on dit souvent, c'est tellement. On dit souvent, la personne la plus importante sur la Terre, c'est toi-même. Et souvent, moi, je fais des choses en fonction de plaire aux autres.
Okay.
Donc, il faut que j'arrête de faire ça. Tu sais, il faut que j'arrête de faire ça. Tu sais, moi, si, comme aujourd'hui, là, je te rends heureux, Marc.
Oui.
Ben je vais me coucher heureux parce que j'ai fait ce geste-là. Mais il n'est pas pour
mais...
moi, ce geste-là.
Ben, c'est très discutable parce que, quelque part, donner, ça peut être un plaisir en soi. Le problème, c'est pas savoir dire non. Je pense que c'est deux affaires.
Oui, peut-être plus de pas savoir dire non à travers.
Ben, c'est vrai. Non, parce que moi, je te connais. J'écoute bien, là. S'il y a deux gars qui se connaissent assez tabarouette, ça fait depuis 20 quelques années, là. Veux pas, là, tu sais. Puis je t'ai vu, moi, pousser. Je t'ai vu passer d'un gars qui accompagnait, je vais te le dire très honnêtement, j'ai vu passer un gars qui accompagnait des humoristes à un gars qui est devenu leur gérant. Ouais. Parce qu'au début, désolé, tu étais très présent, comme tu le dis, mais tu faisais-tu la différence tant que ça? Mais pas certain. C'est que je l'ai vu, moi, le switch, où c'est qu'un jour, bien, ce jour-là, c'est le jour où tu as commencé à trouver que c'était pas d'être le plus présent possible qui faisait que tu étais pertinent. Parce que ça, souvent, les artistes jeunes, ils pensent que c'est ça un bon gérant. C'est l'équivalent d'une gardienne. Non. C'est, excuse-moi là-dessus, non. Ça fait que moi, je l'ai vu, cette affaire-là. Puis je me souviens que ce que j'avais compris de toi il y a longtemps, puis là, de les dernières années, même si on ne se côtoie pas au quotidien, je les entends, moi, les commentaires autour. Puis dans le temps, comment tu étais, là, c'est qu'en négociation, le dernier qui te parlait, c'est lui qui avait raison. Parce que tu n'étais pas capable, en temps réel, de t'opposer à qui que ce soit. Puis maintenant, depuis déjà longtemps, ça ne date pas d'hier, t'as changé. T'es là maintenant, tu es au centre de tes affaires, tu cales tes trucs, puis tu es au courant que quand on dit non, des fois, le monde ne sont pas contents, puis tu dis, ben, c'est le même. Est-ce que je me trompe?
Non, tu ne te trompes pas, tu ne te trompes pas. La seule affaire, j'ai toujours pu résister, c'est aller prendre un breuve avec Marc.
Ça, c'est ah, ben ça.
Ça, j'ai réussi à dire non.
C'est vrai que tu me dis non souvent quand je t'invite au breuvage. Là, moi, je le prends personnel. Mais bref,
je trouvais que c'était un bon sujet du lundi. Puis je veux juste dire que, Marc, tu sais, cette semaine, j'ai fait l'exercice d'écouter chaque jour, mais je t'écoute quand même depuis un petit bout. Tu sais, j'aime ça écouter parce que ce que j'aime de ton format de capsule, ça ne sera pas le cas aujourd'hui, mais ce que j'aime, c'est court. Puis avant de commencer la journée, je trouve que ça part bien. Puis on a comme une nouvelle à chaque jour. Fait que j'aime beaucoup ton format. Je voulais juste le souligner.
Merci. Merci, je suis très content. Puis sais-tu ce qui est... Moi, je vais te faire une confidence à mon tour. J'ai découvert de quoi chez moi qui était inexistant dans la dernière année. Ça s'appelle l'assiduité. Parce que moi, j'étais un gars de première vitesse. J'étais un gars d'entre... J'étais un entrepreneur. Ça veut dire que quand c'est commencé, moi, je suis déjà tanné. Là, t'sais. Fait que je le sais que c'est un défaut. Tous les projets chez moi qui ont duré, c'est des projets où j'ai des associés qu'eux autres sont le contraire de moi, du monde d'opérations rigoureux, tu comprends? Fait que c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste qu'on n'a pas... Il n'y a pas de profil parfait. Ben, j'ai découvert, parce que évidemment, c'est sûr que c'est tellement dans mes cordes de faire ça, j'ai découvert que j'étais capable d'être assidu. Puis tous les jours, mon gars, hey, dans la dernière année, il y en a-tu qui ont parti des podcasts puis qui ont arrêté un mois après, là?
Plein.
Moi, c'est 5 jours par semaine depuis le mois de mars. Oui, ça va faire fou. Un an. Exact. Puis, ça fait que j'ai découvert ça chez moi. Ça fait que tu vois, c'est pas pire. Quand on masque quelque chose qu'on aime vraiment, là, ben, les défauts que t'as, tu te rends compte que t'es peut-être capable de les avoir en qualité. Ça fait que ça, moi, c'est ma petite. Ouais, c'est capoté. Maintenant, par rapport au sujet lui-même, est-ce que, parce que c'est très intéressant que tu nous dis oui. que tu avais fait ça et tout ça, est-ce que tu as l'impression, toi, question que je te pose, que le monde politique devrait s'intéresser à la vie au travail des gens à ce niveau-là, au niveau vraiment de burn-out, épuisement, ou bien c'est comme non, c'est à chacun à gérer ça, t'as la fin. Qu'est-ce que tu penses que la politique devrait s'occuper ou pas de cette section-là?
Moi, ce que je trouve au niveau de la politique, c'est qu'ils vont toujours écouter ceux qui crient les plus fort. Puis le monde en burn-out, c'est pas eux autres qui crient les plus forts, tu sais.
C'est un bon point.
Le monde va aller crier pour « Hey, tu sais, il y a des manifestations. »
Les taxes, puis ah ouais.
Les taxes ou les masques ou les sauver la planète ou pas de le pipeline ou tu sais, comment-tu. Ça va crier pour ça, là, tu sais. Mais t'auras pas 40 personnes. Tu sais, à chaque année, on en entend parler, c'est un peu dans le mois de janvier, tu sais, belle cause pour la cause. Tu sais, c'est on n'entend pas parler tellement que ça, je trouve, de santé mentale. Tu sais, là, ça commence plus, là, Marc, mais tu sais, toi et moi, on n'est pas nés hier. Tu sais ce que je veux dire? La santé mentale, on dirait que ça l'a apparu en 2017. On dirait qu'avant ça, le monde, il y en avait, on ne parlait pas de ça. Puis c'était comme gênant, tu sais, comme... Tu sais, on a environ le même âge. Et tu te rappelles, quand on était jeune, quelqu'un qui allait voir un psy, c'était soit un faible, tu sais, c'était soit un faible ou un fou.
C'est carrément
normal,
ça.
C'est normal que notre génération, on n'est pas fan d'aller là. Fait que c'est normal qu'on se pousse à l'épuisement parce qu'on se dit, j'irai pas voir un psy, je suis pas faible. Tu sais, je suis Marc Boilard. Fait que si t'es pas fou, t'es pas faible, tu iras pas. Fait que je pense que les gens devraient consulter, peut-être pas tous les jours, mais ça dépend de tes besoins à chacun, là. Mais si on va se check-up, comme je disais tantôt, le sang, pourquoi qu'on irait pas se checker le cerveau aux 4 ans? À chaque Olympique, tu vas te tester, voir si tout va bien en haut.
Puis écoute bien l'anecdote que je vais te dire. À un moment donné, j'avais une assistante quand j'étais gérant, justement. Parce qu'à un moment donné, le bureau était rendu comme avec pas mal de monde, là, tu sais. Ouais. Puis un jour, elle me dit, ben normal, elle me balance ça comme si de rien n'était. Elle dit, tu sais, elle dit, de toute façon, elle dit, c'est prouvé scientifiquement que les hommes sont plus faibles que les femmes. Fait que là, moi, je fais comme, OK, j'embarque dans le jeu parce que je veux qu'elle me prouve scientifiquement que les hommes sont plus faibles que les femmes, telle affaire. Elle dit, tu vas voir demain, je vais t'amener un livre que j'ai lu, telle affaire. Elle amène un livre, puis il y a un graphique en pointe de tarte, là. Puis ça montre qu'il y a 3 fois plus d'hommes qui se suicident que de femmes.
Ça, c'est sûr.
Oui, mais penses-tu vraiment que dans le livre, c'était écrit « donc, ils sont plus faibles » ?
Non.
Elle, c'est sa conclusion, tu comprends?
Oui.
C'est que tu fais comme quand tu reçois ça, là, ça te donne-tu le goût de consulter, tu penses?
C'est sûr.
C'est hallucinant.
Mais je pense que les... Ouais, c'est ça. C'est toujours l'espèce de performance, tu sais. Quand quelqu'un ne se sent pas assez hot, ben,
Non, mais c'est pas. Oui, absolument. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que à ce titre-là, je vais dire comment ça se fait que c'est juste des filles qui sont avec des pervers narcissiques. Faut-tu être faible?
Non,
mais rendu là, tu sais.
On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, hein, oublie pas.
Ben, dans ce cas-là, c'est que ce que je trouvais atroce, c'était le signal que tu envoies à ton entourage comme ça pendant un petit breuvage 5 à 7 en disant, ah, oh, vous savez, hein, c'est... Puis là, quelqu'un gobe ça en disant, ah oui, putain, puis c'est quasiment là que les guerres partent. Là. C'est quand tout à coup, tu fais quelle conclusion bizarre, en tout cas, bref. Écoute, je te lance tout de suite sur le deuxième sujet, le sujet de mardi, qui était ce que j'appelle le marché du réconfort. Alors, le marché du réconfort, j'ai découvert ça au Salon du livre en 2016, je pense. J'étais assis à côté de Nicole Bordelot. Je fais un petit résumé de l'épisode. Nicole Bordelot, c'est une auteure, une autrice que je ne connaissais pas du tout, puis qui écrit des livres, puis qui avait une file, toutes des femmes, qui étaient toutes là, capotées sur son approche yoga, telle affaire, etc. Puis là, j'ai fait, ah OK, attends un peu, là. Les livres de cuisine, les livres de yoga, le jus vert, le céleri guérit le cancer. J'ai fait, il y a un marché que moi, j'ai baptisé le marché du réconfort, qui, en fond, d'après moi, a un peu remplacé la religion. C'est-à-dire que c'est des outils pour baisser l'anxiété. C'est que tu as soit du Prozac, tu as soit du Zantac, là, en tout cas, je peux être honnête, je ne suis pas très au courant, mais et tu as plein d'autres affaires, dont ceux qui ne sont pas du tout drogue, alcool, etc., ben straight, mais ils ont leur marché du réconfort, c'est-à-dire si tu fais ça, ça va te calmer, puis là, on met une slide de coucher de soleil sur Facebook, etc. T'es-tu d'accord, d'après toi, qu'il y a un marché du réconfort qu'on voit comme si c'était des vérités, puis dans la vraie vie, c'est bien juste l'équivalent d'un café, là, tu sais? Puis si oui, penses-tu que ça fait du bien pour vrai ou c'est une xième béquille que les gens se donnent?
C'est parce que si tu y crois, ça te fait du bien pour vrai.
C'est sûr. C'est
juste une question de croire. C'est comme un artiste, la raison sur scène pourquoi il est drôle, c'est parce qu'il croit qu'il est drôle. Mais si tu crois qu'une petite tisane à camomille, ça te replace, tu comprends-tu? Il y a du monde. Ah, moi, je ne peux pas prendre passiflore parce que je ne dors pas, puis je ne peux pas prendre. C'est comme. Il y a des gens qui ont une croyance sur quelque chose. Le réconfort, chacun va le chercher dans quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a des gens qui en abusent de ce marché-là parce que dans le monde d'aujourd'hui où est-ce que tout va tellement vite, on cherche à ralentir. Puis quand on cherche à ralentir, il y a une pub qui passe, ça dit « Saviez-vous que 2 bains de pied par semaine vous enlèvent telle affaire? » Bon, fait « Christy, je m'achète un bain de pied! » Fait qu'on achète un bain de pied, puis après ça, on le laisse là parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas le temps de sauter dans le bain de pied. Tu sais, il y a quelque chose de spécial. On veut toujours être un meilleur être humain, on veut toujours faire quelque chose de mieux, mais je pense vraiment que comme dans n'importe quoi, il y a des gens qui vont toujours abuser de cette situation-là.
Toi, est-ce que tu sais pertinemment que tu as des croyances particulières que tu dis, moi, je ne peux pas te le prouver, je ne peux pas t'assurer, mais ça me fait du bien. T'as-tu cette bulle-là, là, à quelque part?
Ben, t'as-tu cette bulle-là? Moi, c'est dans le sport, mais il y a beaucoup de monde qui vont dire la même chose. Là. Moi, quand je joue au deck hockey, puis là, on est en situation que je ne peux pas jouer au deck hockey, mais quand je joue au deck hockey, je redeviens un petit cul. Je suis dans la rue, je suis Guy Lafleur, j'attends la passe de Steve Schott, tu sais, je vais déjouer Billy Smith. T'sais, tu comprends? T'sais, et à ce moment-là, je suis plus un gérant, je suis plus un père, je suis plus un chum, je suis plus un frère, je suis plus un fils. Je suis juste quelqu'un qui profite à 100%. Fait que j'ai l'impression que quand je dans le jeu, je peux m'évader. Fait que j'ai la croyance que tous les jeux m'évadent. Mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens. Là,
t'es-tu un gamer?
C'est compliqué. Je le suis pas. Non, mais je le suis pas. Mais à chaque année, dans le temps de Noël, je le suis. Je joue là à un rythme effréné, là, à faire gêner du monde.
Mais tu m'as déjà dit qu'il y avait un jeu que tu avais passé quasiment 12 heures, si c'est pas
non, plus. Non, mais plus que ça. Là, tu vois, moi, j'achète Assassin's Creed à chaque année depuis le jour 1. Là, tu sais, j'achète toujours l'édition. Puis là, cette année, il a sorti une nouvelle édition.
Tu games local?
Oui, puis à Noël. Oui, ben oui, c'est ça, exact. Puis à Noël, j'ai acheté Assassin's Creed. J'ai passé, je suis rendu à 120 heures dessus.
Ben voyons, depuis le 24 décembre.
Ouais.
C'est le temps pour. Mais non, mais moi, c'est drôle, hein. Au contraire, je trouve ça hot parce que, regarde bien, moi, c'est une affaire, entre autres, que j'ai toujours essayé, j'ai toujours voulu, ça n'a jamais collé. Ben, j'ai compris qu'à chaque fois que j'essayais ça, j'étais chez quelqu'un d'autre parce que moi, j'en ai pas de console. Ouais. Fait que j'étais là, puis pendant 15 minutes, ça prend plus que 15 minutes, tu sais. Mais ben là, j'ai décidé d'acheter une PS5. Quand elle va être disponible, là, Michel, je vais devenir un gamer. Puis, ouais, parce que de un, j'aime tellement, moi, j'ai acheté ça, là, ça fait un mois que je suis ici, ça. Ouais. J'adore ça. Moi, toutes mes activités passent par un fil Internet. Complètement, toute ma radio, tout, là, je fais tout d'ici, là. Il n'y a plus, puis je trippe comme un malade. C'est que chaque scène que je peux mettre qui me permet de rester une heure de plus chez nous, je veux investir là-là, je suis sérieux. Je suis entièrement sérieux. C'est que je veux devenir un gamer.
Achète-toi Assassin's Creed, tu vas capoter.
Ah, on ne va vraiment pas jouer à ça.
Ah oui, c'est pas. Non, on ne joue pas ensemble, c'est que je joue tout seul. J'attends pas après personne qui joue à ça. Ah, t'as la paix. T'as la paix. Il y a juste une édition que tu peux jouer avec d'autres mondes, là, c'est Trinity, mais là, non, achète pas Assassin's Creed. En tout cas. Bref.
Fait que, donc, concernant ce que moi j'appelle le marché du réconfort, oui. dernière question, oui. Est-ce que tu as l'impression que, grosso modo, ça aide les gens d'aller vers là ou ils s'en rendent pas compte puis ça leur nuit, d'après toi, vite demain?
Mais encore là, je vais répondre la même affaire qu'au début. Ça les aide parce qu'ils croient que ça les aide. Le jour où tu ne crois plus en quelque chose, si tu te rappelles, c'est un peu comme le guide alimentaire canadien. Quand on était jeunes, ça prenait tant de portions de tea. Là, ils l'ont modifié dernièrement. Fait que là, on va croire au nouveau guide. Ça veut dire que pour nous autres, on s'est mal nourris pendant 40 ans.
C'est pas des grosses différences que tu parles. Ils ont monté les guerres.
Il y en a quand même. Là, t'sais, moins de lait, plus de... T'sais, y a comme Je fais juste te dire que c'est les croyances des gens. Moi, je pense que si tu crois que tu as un réconfort là-dedans, mais au nombre de machines elliptiques qui traînent dans des sous-sols et qui ramassent la poussière... Je pense que j'ai ma réponse là-dessus.
C'est comme le fameux... Écoute, sérieux, cette année, le nombre de personnes qui m'ont dit hey, « Je suis sur un super régime, je mange un repas par jour. » Ben, mon gars, ça dure deux semaines à chaque fois. À chaque fois, après deux semaines, il ne t'en parle plus. Tu fais comme, coudon, hein, ça se peut-tu que c'est peut-être pas ça la clé de dire que je m'en torde de même? Ça t'offre zéro, là, tu sais. Il y a ça aussi. En tout cas, bref. Troisième sujet, c'était le sujet de mercredi. Ça, évidemment, on rentre dans nos univers... qu'on partage, exact. C'est-à-dire, j'ai mon angle mort de mercredi, je parlais de Charles, quel est son, Charles Picard, c'est tout ça, j'ai oublié son prénom, Caroline, son nom de famille, Charles. En tout cas, c'est Charles Girard, je ne sais quoi, à qui j'ai parlé la journée même que son article a passé dans la presse, que je ne connaissais pas. C'est le nouveau grand boss, c'est le gars qui a remplacé Gilbert Rozon, littéralement, à Juste pour rire. Puis je trouvais ça le fun de voir quelqu'un qui arrivait d'ailleurs. Parce que moi, j'ai fait beaucoup j'ai écrit beaucoup d'articles dans LinkedIn par rapport à une dualité qui me fâche. Puis quand tu es gérant d'artiste, puis c'est là que toi, je sais que tu vas comprendre tout de suite, dans ton ADN, tu reconnais le talent. Moi, je pense que tu ne peux pas devenir gérant comme tu es un administrateur. Ça prend, faut que tu aies le pif de dire, surtout nous autres, on a parti, tu sais, moi, Anctil, Cavana, Morancy, c'était des ticus comme Mike au début ou Guillaume, là, tu sais, bon. Puis, j'ai toujours été très irrité de voir que tu penses que tout le monde reconnaît le talent, mais personne ne reconnaît le talent. Tout le monde n'en a que pour le branding. Puis, dans le domaine du travail, puis c'était mon point cette semaine, c'est que c'est tout le temps le CV qui gagne. C'est toujours là, la notoriété qui gagne. C'est qui a le plus beau CV? C'est qui a le CV qui arrive directement de la même place? Je cherche un directeur marketing, je veux un autre directeur marketing. Puis, je veux quelqu'un dans mon industrie. D'un coup, tu vois ce gars-là, qui arrive, tu m'as toi-même appris, qui arrive du Cirque du Soleil, fine, c'est pas si loin, mais il est pas en humour. On le sait que les codes en humour, mon vieux, c'est une... Tu sais, combien de fois on a vu des metteurs en scène qui arrivent en humour en se disant, ah, je vais faire une grande mise en scène, finalement, c'est moins drôle. Calvaire, c'est pas compliqué, il faut que ce soit drôle, là, qui n'a pas compris. Ça fait que moi, j'ai trouvé que j'ai trouvé ça intéressant de lire cette entrevue-là avec du gars-là. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette idée-là, de venir d'ailleurs, puis de reconnaître le talent, à qui on fait la passe? Regarde, ben, c'est l'autre sujet après, je vais le garder pour après, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus en général. Là.
Tu parles pour moi, je trouve que c'est important de voir le talent. Souvent, par exemple, tu dis voir le talent, mais qu'est-ce qui a faussé un peu la donnée dans les dernières années? C'est Internet. Ça donne du talent ou la fenêtre sur du monde qui n'en ont pas.
Moi, c'est vrai. Oui, mais il y a une différence. Oui, mais OK, mais ça, c'est reconnaître le talent. C'est-à-dire reconnaître quelqu'un qui n'en a pas tant, mais qui a des clics.
Exact.
C'est ça.
Sauf que tu vas demander à des gens c'est qui leur humoriste préféré, puis je vais citer cet humoriste-là immédiatement. Tu sais, il y a des gens qui voient du talent où est-ce que. Anecdote, début des années 2000, Rachid Badouri fait les pubs de, je pense, c'est Select 49.
Il me semble, ouais.
Select 49. Et j'allais au gym dans ce temps-là, brag, mais il y a très longtemps. J'allais au gym, puis là, il y avait une fille, j'avais dit, elle dit, tu travailles en humour? Je disais, oui. J'ai dit, c'est qui ton humoriste, c'est que t'aimes beaucoup? Elle avait dit, Rachid. J'ai fait, mais tu l'as vu en show? Ah non, c'est ses annonces. C'est son humoriste préféré à cause des annonces qu'il fait.
Ouais, j'ai l'impression
que ça a créé ça un peu avec Martin Matt et Hondo au début, tu sais, les Ego. Tu sais, j'ai l'impression que c'est triste que ton humoriste préféré, tu le découvres en train de vendre du steak. Tu comprends, tu le découvres.
Ouais, mais c'est triste ou c'est heureux que Anyway, c'est une façon de le découvrir. Parce que moi, j'ai souvent dit que les premiers humoristes de la génération reculons il y a 20 ans, justement, étaient connus beaucoup par la télé, les galas juste pour rire, etc. Puis après, ça a été Musique Plus. Après toi, Musique Plus, Louis-José avec Dolora Clip, etc.
Louis-José, Mike Patrou.
Les Denis. Les Musique Plus a vraiment mis beaucoup d'humoristes à la map. Puis après, j'ai eu l'impression que c'était les pubs, justement, avec Honda, avec Maxi. Ben, Maxi Martin était déjà connu. Ouais. Mais Louis-José avec l'Oblaz.
Ouais.
Il y a beaucoup d'humoristes. C'est que là, la question, c'est est-ce que c'est triste? Ou bien, au contraire, c'est crime. Il y en a qui ont réussi à avoir une espèce de passe-droit parce qu'on nomme pas les pires. On nomme quand même du monde qui, dans la vraie vie, sont vraiment bons. Là,
oui, tout à fait. C'est vraiment spécial parce que tu penses pas, toi, tu sais, souvent j'ai cette discussion-là, tu trouves pas que Internet a fait que les humoristes aujourd'hui ont plus, on regarde plus le contenant que le contenu.
Oui, j'en conviens 100%.
J'ai l'impression que, et le public en général, ça qui est triste, c'est que on associe souvent le succès au nombre de ventes de billets. Tu sais, on va souvent associer, si tu m'aurais ça, doit être bon, c'est le meilleur vendeur.
Ouais.
Ça veut pas dire parce que c'est le meilleur vendeur que c'est le meilleur humoriste, tu sais.
Puis il y a un c'est peu, clair.
Fait que c'est là que ça devient, tu sais, quand on parle de trouver le talent, tu sais, il y a du monde qui sont là temporairement dans la ligne de l'humour. Il y a des humoristes aujourd'hui qu'on trouve très importants que dans 50 ans, on n'en parlera pas.
Ah, ben avant 50 ans.
Ben avant 50 ans, puis il y a des humoristes. Tu sais, parle juste de Yvon Deschamps qui a su traverser. Il y en a eu des humoristes là, à l'époque de. Tu sais, quand est-ce qu'on dit, mettons, hey, Pierre Labelle, c'était malade. Tu sais, pourtant, non. Il y avait de l'humour. C'est
oui, sûr. Oui. Mais, je suis allé le voir à Polyvalent de Charlebourg. Je me souviens très bien. Il était un des. À l'époque, quand j'étais au secondaire, il était 7. Ouais, sérieux. Pour vrai, t'as raison.
Fait que, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, puis on n'a pas osé de reculer, comme tu dis, je t'ai dit dans 50 ans, mais pas obligé de reculer bien loin. Cette semaine, il est sorti un article dans le Journal de Montréal, les 25 humoristes les plus québécois, les plus importants de tous les temps.
Ouais.
Et Pierre Légaré n'est pas là. Puis ouais. Pierre Légaré, il me semble que c'était un vendeur de 200-300 000 billets il y a 20 ans.
T'sais, non, non, pas Pierre Légaré, Michel.
Pas tant que ça.
Non. Michel, c'était. Non, Pierre Légaré, c'était Louis T.
Ah ouais, j'étais sûr qu'il vendait plus que ça.
Non, c'était l'humoriste intello qui allait chercher une clientèle de intéressant. Non. Il n'a jamais fait 100 000 de sa vie.
Ah ouais, parce que des années 90, faire 100 000, c'était assez facile.
Ah ben, je vais te raconter ce que j'ai toujours dit. Tu te souviens de l'émission Ben Ezra?
Ouais.
Bon, elle était live, puis elle avait tout le temps quelqu'un qui allait à la première live dans coulisses puis dans loge, tu sais. Puis un jour, elle est live au Saint-Denis. C'est Michael Rancourt qui sort son premier one-man show.
Oui.
Personne ne sait c'est qui. Je sais à peine c'est qui. Calvaire, je travaille là-dedans. Ben, le Saint-Denis est plein, puis les supplémentaires, tout. C'est pas compliqué. T'es allé au Saint-Denis, tu disais humoriste ou imitateur.
C'était plein.
C'était terminé.
Tu te rappelles, entre 95 puis 2001, finir un gala, c'était tout le temps un imitateur.
Tout le temps. Tout le temps. Ils sont où d'ailleurs les imitateurs de ce temps-là? C'est-à-dire depuis un petit 10 ans?
Bien, je vais te dire qu'est-ce qui est arrivé, que personne ne sait. C'est en 2011, il y a une loi qui est passée pour la télévision. Tu ne peux pas mettre une chanson. Tu sais, avant, on pouvait mettre en bas de 30 secondes, mais là, si tu reconnais la toune, tu es obligé de payer les droits.
Ah ouais!
Fait que tu sais, si mettons, tu fais juste 15 secondes de Stand By Me. Tu sais, il y a un gars-là juste pour rire, tu sais, un numéro avec un imitateur aujourd'hui comme dans le temps, ça pourrait coûter, avec les choix de tunes, mettons, tu prends 4 tunes d'Elvis, 2 des Beatles. Là,
ouais, trop métier à chèque.
Ton numéro de gala vient de coûter, mettons, 40 000 piastres pour avoir Michael Rancourt, c'est un petit peu cher.
Mais tu m'apprends ça. C'était
en 2011, la loi a changé, fait que c'est pour ça que tu as remarqué, il n'y en a plus.
Michael Rancourt, en passant, je ne suis pas en train de dire qu'il était pourri. C'est le contraire, il était très bon. Il était incroyable de naître du jour au lendemain puis de remplir le Saint-Denis. C'était quand même incroyable.
Tout à fait, c'est incroyable qu'est-ce qu'il avait accompli.
Je veux te parler aussi par rapport à ça. Je suis très curieux de savoir, parce qu'on parle le meilleur humoriste, pas nécessairement celui qui vend, etc. Écoute, c'est des zones grises, hein? Ce qu'on passe pas scientifique. Mais moi, je veux savoir, Michel Grenier, lui, quand il signe un artiste, ou quand tu t'es intéressé à du monde, même si ça a duré ou pas, c'était quoi tes critères?
Ça va paraître vraiment bizarre, mais moi, c'est hors scène. L'artiste est perçu hors scène. J'ai besoin d'avoir de travailler avec des gens de bonne valeur, parce que je rappelle encore une fois qu'il ne faut pas que tu oublies, Marc, toi qui es un fan des contrats, j'ai aucun contrat avec aucun de mes artistes.
Oui.
Tout le monde.
C'est-à-dire que tu as des clauses verbales, mais c'est pas écrit comme moi je faisais.
Exact.
Oui. Pourquoi juste cette politique-là?
Parce que j'ai l'impression que tout peut finir. Tu comprends? Si on peut échanger Wayne Gretzky ou si on peut changer. Dans le sens que si tu peux péter un mariage, tu peux péter n'importe quoi. C'est toujours l'artiste qui va avoir raison. Fait que.
T'as pas mal raison.
Puis quelqu'un qui ne veut pas travailler avec toi, ben, on ne forcera pas l'entente entre deux personnes. J'étais capable de trouver du talent une fois, je vais être capable d'en trouver une autre fois. Puis il y a juste le fait aussi que peut-être ce n'est pas un bon mix, toi avec n'importe quoi, toi Élise Dion, mettons, un exemple.
Ouais.
C'est pas un bon mix. Peut-être toi, ton mix, c'est plus toi et Louis T. Exemple.
Revenons sur. Je te suis. Je suis assez d'accord. Je faisais pareil pour pas mal. Moi, mes raisons, c'était. Si tu ne veux pas travailler avec moi, c'est fin de l'histoire. Point barre.
Exact.
Comprends-tu? C'était ça, moi, dans le fond. C'était comme, ça ne me tente pas d'avoir à traîner puis me battre avec who cares. Puis nous autres, il faut avouer aussi qu'on est dans le service. Si tu as investi 200 000 sur la prod de quelqu'un puis qu'il dit « Ah, ça ne me tente plus », là, c'est une autre affaire. Mais nous autres, on est comme des comptables. On vend du temps, de l'expertise, on vend de la… Tu sais, c'est ça. Mais je te suis. Donc, mais ça m'intéresse, je veux creuser ça un petit peu. Tu dis « hors scène ». Mais ça se peut pas que tu as signé quelqu'un qui est devenu vraiment populaire, bon, qui a eu une belle carrière en croissance ou autre, puis qui était ordinaire. Ça reste quand même ton critère. Ça peut être que tu disais il est bon. Là.
Non, c'est. Je me suis mal exprimé, tu as raison. Merci de me ramener à l'ordre, Marc. C'est hors et sur scène. Mais il faut que la personne me plaise sur scène, puis après, il faut qu'elle me plaise hors scène aussi.
Ça fait que tu ne serais pas le genre à dire ah, lui, c'est un plein de marbre, mais je vais faire du cash avec. Tout ça, tu n'aurais pas été capable.
Jamais. D'ailleurs, je vais faire le nom. Là. Il y a déjà un artiste qui m'a appelé, puis on le connaît, qui m'a appelé, puis il a dit « C'est bien beau, Mike Ward, mais quand tu auras le goût de faire du cash, tu m'appelleras. »
Ah oui, OK, bon.
Puis tu sais, tu comprends, c'est mal me connaître. Là. Je suis tellement pas au cash, c'est mal me connaître. Fait que j'étais triste, mais lui, il a joué cette carte-là.
Fait que c'est drôle ce que tu dis parce que tu rejoins exactement le point que je t'amenais tantôt, c'est-à-dire que les gens n'en ont que pour le CV. Je m'ai conté une anecdote que ma sœur m'a conté. C'est de là que j'avais comme parti un peu cette réflexion-là. Ma sœur, elle a une grosse job de la mort. C'est la boss des États-Unis pour les produits Clarins, okay, qui est une ligne de cosmétiques parisienne. Oui. Elle était ici au Canada, puis là, elle est rendue la présidente de Clarins USA. Fait que, tu sais, elle envoie, puis elle envoie d'autres. Puis à un moment donné, elle cherchait une directrice de marque là, pour une des lignes de genre, je ne sais pas, pour soins de la peau, peu importe. Puis là, 4 personnes de son bureau, il avait recommandé, après des recherches, une personne qui arrivait de chez Macy's, une grosse chaîne aux États-Unis. Oui, là, fait que là, c'était comme, c'est qu'elle dit, bon, ben OK, avant de confirmer, je vais quand même la rencontrer, tu sais, parce qu'elle va travailler direct avec moi. Puis c'est une job importante, puis tout. Puis elle fait l'entrevue, ça dure à peu près une heure. Elle fait venir les 4 dans le bureau en disant « Comment ça se fait que vous m'avez proposé ce fille-là? » Ils ont tous répondu la même chose. Le CV, elle arrive elle dit « Hey, elle n'a pas écouté une minute pendant l'heure, zéro. Elle avait chaud, elle stressait de partout. Elle dit « Elle, là, elle arrive ici, là, puis dans 3 mois, vous êtes toutes brûlées. » Comment ça se fait que ça ne vous est pas? Puis c'est là que j'ai fait une des raisons pour laquelle la notoriété, puis etc., là, c'est qu'à quelque part, on peut se cacher en arrière de ça en disant, ben, vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir fait un mauvais choix, garde le CV.
Oui.
Mais nous autres, c'est pour ça que je ramène ça à un job de gérant d'artiste, nous autres, notre job, c'est qu'il n'y en avait pas de CV encore.
Tout à fait.
On était obligés de dire, Morancy, tu es quoi? Moi, Roson m'avait dit, pourquoi Morancy plus que Massicotte? Ben, j'avais fait, je ne te dis pas que Massicotte n'est pas bon. Je te dis juste, moi, je file que ça va passer d'une autre façon. Ben, je me suis-tu trompé? Je ne me suis jamais trompé. Mais... Bon. Fait que je trouve juste que c'est fâchant de voir que tout le monde, à quelque part, engage tout le monde dans le domaine artistique, dans le domaine corpo, mon gars, partout, en se souciant jamais de ce que toi-même tu viens de dire. C'est-à-dire, bien, évidemment, il faut que tu aies le talent, puis je pense que le monde va en vouloir. Oui. Mais moi, ça me prend une personnalité qui vient avec. Ça, sinon, ça fait juste pas coller. T'sais.
Tout à fait. Fait que c'est vraiment important. C'est là que il ne faut pas oublier que si la personne, l'artiste, te respecte, il va aussi respecter ses fans. Il y a au-delà de. C'est au-delà de tout ça. Fait que moi, personnellement, je regarde plusieurs choses, mais comment que la personne, je m'entends avec aussi. Parce que, tu sais, c'est travailler avec quelqu'un. Puis un artiste, tu le sais, Marc, tu l'aimes comme... j'aime ça parce que souvent, tu dis, tu précises que tu as choisi de ne pas avoir d'enfants. Mais tu en as eu des enfants, tu as été gérant. Puis quand tu as été gérant, tu as des enfants. C'est des enfants que... Pourquoi on était là, ça? Puis c'est pas moi, là, on a piqué là. Il ne veut plus jouer avec moi. Pourquoi qu'il ne veut plus jouer avec moi? Tu en as élevé des enfants. Tu vas, à l'avenir, fais juste dire, j'ai pas changé de couche. Puis encore là, t'es occupé de Maxime Martin. Non, c'est une joke pour Maxime.
Très drôle. Mais j'ai eu aucun problème avec personne, bien au contraire.
Exactement.
Mais le gag était...
Ça a tout le temps bien déroulé, mais en même temps, tu comprends, Marc, ce que je veux dire, c'est...
Mais je faisais pas... Toi, tu as fait vraiment beaucoup de gardiennage. Moi, j'en ai pas fait. Moi, je me souviens, une fois, j'avais fait un meeting, les trois ensemble, les lundis stand-up que Morancy animait, tu te souviens, au Café Campus.
Oui.
Puis les trois gars étaient sur le show ce soir-là. C'était rare, tu sais, c'était un ou l'autre. Mais là, François animait, puis il y avait Jean-Michel Pantoni. Puis j'avais dit, les gars, il faut que je vous parle. J'ai dit, à partir de maintenant, je veux plus que vous me contiez vos gags d'avance. Parce que ce que je voyais qui arrivait, c'est que quand moi, je trouvais de quoi de drôle, mais que ça riait pas, j'avais tendance à excuser le gag, tu comprends?
Ouais.
Au lieu de faire comme, regarde, moi, là, je m'excuse, mais c'est pas moi, là. Pas moi, il faut que tu fasses rire. Il faut que tu fasses rire plein de monde dans plein de contextes. Bien, sur le coup, comme de raison, ça a l'air de dire, ah, ben moi, j'aime ça parce que Marc a une bonne tête, puis je veux tester mes affaires, mais j'ai fait, c'est pas vrai que c'est productif.
Ouais.
Fait que moi, j'étais pas vraiment dans le style... Peut-être que j'en ai fait, puis je m'en rends juste pas compte. Là-dessus, je t'accorde un point, là. Mais j'ai l'impression que je n'étais pas de même.
Mais on n'est pas le public cible non plus, là.
Ben, c'est
honnêtement,
ça.
On a tellement vu d'humour que moi, il n'y a plus rien vraiment qui me fait vraiment, vraiment rire. Là.
Faut pour que vrai, tu te tords plus de rire. Ça se peut pas, il y a eu des sous-écoutes. Moi, excuse-moi. Le sous-écoute avec Yann Thériault, là, le dernier qui prenait de Glodet sous mort.
Non, t'as mené. Ça, la raison pourquoi c'est drôle, c'est parce que c'est inattendu. Moi, c'est le texte. Moi, quand je te parle, c'est le texte formaté de tu sais qu'il va toujours arriver quelque chose à la dernière personne. Tu sais, tu comprends-tu? C'est le format. Fait que quand tu vois le texte, comment il est composé, je te dirais les humoristes puis des années 90, c'était un peu toujours. Le même pattern. Là, tu sais,
écoute, je me souviens que c'était une joke, c'est les filles, une joke, c'est les gars. Ça comptait le nombre de claques. Il y en a-tu encore qui font ça, compter le nombre de claques quand ils vont au bordel?
C'est triste. Non, ça se fait plus.
Parce que moi, je sais que tu sais de qui je parle surtout, mais je ferme ma gueule parce que c'est pas le but. Mais c'était quand même genre, je faisais, man, sérieux. Puis en plus, ce qui me gossait, ça aussi, je suis curieux de t'entendre. C'était du monde qui allait en rodage, mais avec leur stock le meilleur.
Mais oui.
Comme quoi, c'était comme partout où il allait, il fallait qu'il y ait une performance. Mais quand est-ce que tu avances plus vite que plus lentement? C'est comment ça se fait qu'il y a du monde? Il y a tellement d'inconséquences dans le jugement d'artistes qui arrivent là puis que tu te demandes, sont-tu à bonne place? Pas parce qu'ils sont pas drôles, parce que tu fais... Qu'est-ce que tu fais là en train de chercher une clap dans le fond d'un bar quand tu es supposé être en train de t'organiser pour que ça servit.
Exactement. Puis c'est le principe en humour. On parle souvent de la sandwich à la marde. C'est supposé de faire une sandwich à la marde dans un bar. Là. T'as pas
le choix. Ouais.
Tu commences avec ton stock sûr. Et là, quand tu fais ce stock-là qui est plus sûr, tu fais, d'habitude, ça, j'ai rire, clap, rire. Mettons, c'est un exemple, je te donne. Oh, là, oui. Je l'ai fait dans ce bar-là, j'ai clapperie. Oh, ça veut dire qu'eux autres comprennent mon niveau. Là, j'envoie la marde. J'envoie la marde. Tu sais, ce que j'ai écrit hier, ce que j'ai écrit avant hier, les idées que j'ai eues, tout le kit. Puis là, après ça, à la fin, je les retue avec rire. Que il est sûr. Fait que tu mets du stock sûr, du stock pas sûr, du stock sûr, puis tu t'en vas. Fait que comme ça, tu sais, vu que le monde a des mémoires de poisson rouge, ils font « Hey, il était bon! » Parce que tes trois derniers gags étaient bons.
C'est sûr. Fait que... C'est quoi, d'après toi, quand ça va réouvrir, ça va être quoi qui va avoir changé ou pas changé du tout quant à la, je te dirais, la faune, là, humour, relève, bar, rodage, ça touche tout le monde. Là. D'après toi, ça va ressembler à quoi? Puis je veux t'entendre aussi sur le nouveau club de comédie à Québec.
Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont fermer. Beaucoup, beaucoup de clubs qui vont fermer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bars puis qui, c'est, tu sais, ils tenaient ça parce que, tu sais, il y en a qui ont d'autres jobs, là, quand, qui ont un bar, là, tu comprends? Il y en a vraiment qui ont d'autres qui ont un bar. Fait que je pense que l'autre bar, il y a deux théories. Fait que je vais aller avec deux théories. T'aimes ça, Marc, des théories, je te garde.
Oui.
Alors, théorie numéro un, le monde va se garocher comme des... Je vais y aller avec trois théories, je t'en mets trois. Soit que le monde se garoche en malade mental jusqu'à « Hey, je veux de l'humour », jusqu'à vomir, tu sais, tu comprends-tu, en emploi.
Oui.
Soit que les gens vont faire « Hey, sais-tu quoi? » Là, maintenant, là, j'ai vu à quel point pendant la pandémie, il y avait des choses qui étaient importantes dans la vie. Je vais aller voir juste les humoristes que je tiens vraiment à voir. Fait qu'il y a des humoristes qui vont continuer à vendre en malade. C'est sûr que tu t'es dit que tu voulais aller voir. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons, l'autre bord de la pandémie, il y a un show, je sais pas, moi, réunion de Elton John vient à Montréal. Ça va être plein, là. Tu sais, tu comprends? Ça va être plein parce que c'est Elton John. Puis, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, tu comprends? Là, les gens vont aller vers des sure shots. Mais l'autre affaire que souvent le monde pense pas, puis que moi j'aime inclure, c'est que la clientèle qui sort le plus souvent, c'est la clientèle de bar, la clientèle de restaurant, ils ont des pourboires, ils ont tout ça. Ils font quoi présentement? Ah oui, ils travaillent pas. Fait que tu ne pourras pas coller que l'autre bord de la pandémie, les 300 000, 400 000 travailleurs qu'on était habitués de voir dans les soirées du monde, de prendre des breuvages, de faire le tour, ils vont venir. Ah ben non, ils n'ont pas d'argent. Tu comprends ce que je dis? Ça doit être dur pour le... Mais on le sait que c'est dur pour le milieu de la restauration, mais ce qui est difficile des métiers, c'est qu'il y a plein de sous-métiers qui en dépendent, puis on ne le pense pas à eux. Tu sais, comme là, les restaurateurs, ils chialent. Mais qui dit restaurateur, dit serveur, mais on ne pense pas à eux.
Non, c'est vrai.
Non, on ne pense pas à eux. Mais nous autres, on est là. Ah, le domaine artistique est arrêté. OK. Les soundmen, les éclairagistes, les machinistes dans les salles, on parle-tu d'eux autres?
Ben non. Jamais.
Présentement, ils font-tu de l'argent? Ils vont-tu avoir de l'argent à l'autre bord pour aller voir un show? La réponse, c'est non.
Ouais.
Fait que si eux autres ne peuvent pas aller voir de show, si les serveurs, les serveuses, ils ne peuvent pas aller voir de... Tu sais, je te dis juste qu'il y a des clientèles qui sont plus aptes à sortir.
Oui, c'est vrai.
Puis la clientèle en haut de 65 ans, leur budget loisir n'a pas été touché. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire là, au bord de la pandémie? Est-ce qu'ils vont dire, ah ben, tu sais quoi, cette année, on n'a pas pu aller en Italie. L'année prochaine, on va faire la Chine, l'Italie puis le Pérou. Tu sais, ce qu'ils vont mettre... Tu sais, ils ont mis cet argent-là.
Chose certaine, il n'y a personne de cette gang-là qui va dire « Oh, bon, on va se mettre à découvrir des shows dans les bars. » C'est impossible.
Christy, non. Non.
Ouais.
Puis la population au Québec est vieillissante aussi. Fait que, tu sais, je ne verrais pas quelqu'un... Tu sais, au bordel, c'est un peu plus vieux, la clientèle, mais je ne verrais pas quelqu'un au brouhaha de 63 en disant « J'ai hâte de découvrir le nouveau Louis-José. »
Ouais, ouais, ouais. Non. OK. Puis ta troisième théorie, c'est quoi?
Ben, c'est ça. C'est que le monde n'aura pas d'argent.
Ah. Je comprends. OK, c'est bon.
La première, c'est soit que le monde se garoche à vomir. La deuxième, c'est qu'on va vraiment faire ça va continuer à marcher, mais juste pour ceux qu'on veut vraiment aller voir. Tu sais, un sure shot que tu ne te trompes pas. Tu sais, mettons, Lysion poursuit sa tournée. C'est pas à moi de décider si c'est bon ou c'est pas bon, mais Lysion, c'est un nom qui est gage de qualité. Elle est là trop longtemps. Que peut-être que son meilleur show, c'est son troisième. Peut-être c'est lui, peut-être c'est pas lui, tu sais, mais c'est de la qualité. Fait que moi, j'ai moins d'argent, je vais regarder ce que je fais. Ou j'ai plus d'argent. C'est juste ça. Fait que c'est ça les trucs.
Je comprends. En terminant, j'aimerais t'entendre sur tout ce que tu penses que le virtuel a amené. Je vais être très précis dans ma question. Il y a plein d'artistes qui ont fait fuck off aussi, les espèces d'affaires de patentes, de chat, de show. puis de parler à du monde, whatever, zéro. Quelques-uns ont dit ben non. Au contraire, regarde, il y a une voie vers là, Netflix, streaming, name it. C'est quoi ton point de vue de ça? Dans le sens que, pour être très précis dans ma question, c'est qu'est-ce que tu penses des humoristes qui ont embarqué dans des projets nouveaux qu'ils n'avaient pas fait avant, puis ceux qui ne l'ont pas fait? Je veux savoir vraiment précisément qu'est-ce que tu penses de ça. Puis qu'est-ce que tu penses qui va changer pour de bon dans l'offre numérique? Puis qu'est-ce que tu penses qui va mourir de sa belle mort? Donc, c'est deux questions. Les humoristes, puis la plateforme.
Premièrement, tant qu'il n'y aura pas une plateforme, il n'y a aucune plateforme présentement qui est faite pour l'humour. Aucune. Là, je sais que j'avance quelque chose d'impressionnant parce que le monde va dire « Ouais, mais youp, pis ci, pis ça. » Tu sais, l'humour, c'est comme de la musique. Le public, quand il applaudit, c'est le drum. Quand il rit, c'est la basse. Puis moi, je suis le lead singer. Si j'ai pas le beat pour savoir comment livrer mes blagues, comment tu veux que je les livre comme il faut? Donc, okay. Le problème présentement, c'est en virtuel. Oui, on voit tous les écrans, mais justement, tu vois tellement le monde tout en gros que tu focuses sur celui qui joue au PlayStation, puis l'autre qui flatte son chat, puis l'autre qui est allé chercher un breuf. Crime, c'est ton show. Il y a du monde qui sont en pidge, sont 8 d'une caméra. Tu as un propos plus osé, mais il y a un père qui a assis sa fille de 4 ans pendant que c'est un humoriste qui rit dans un bit plus corsé. Moi, je pense que l'autre bord, il n'y en aura plus de corpo Zoom. Il n'y aura plus ça, je pense. À moins que tu trouves une solution, que tu entends le monde comme dans une vraie salle en temps réel, mais pour le moment, là, des fois, avec toutes les applications, comme des applications de communication, contrairement au téléphone, comme moi, si je parle, ça coupe ton micro. Si toi, tu parles, ça coupe mon micro. Fait que si le monde rit, puis on laisse les micros allumés, mais ça coupe la fin de ma blague, donc je pense pas que ça va rester. Je pense qu'il pourrait y avoir des conférences, des séminaires. Je pense que c'est ça. En même temps, je viens de dire ça, sauf que j'ai l'impression que le travail à domicile, le travail à la maison va augmenter. Fait que si tu veux divertir ces gens-là, à un moment donné, peut-être il va falloir qu'il y ait des conférenciers web. Je pense que ça peut rester. Tu sais, des gens qui te motivent ou qui te jasent. Mais imagine-toi pour un humoriste aussi, c'est une autre chose. Faire une demi-heure de matériel devant ma caméra présentement, c'est pas tout le monde qui est super bien équipé. Ensuite de ça, c'est une demi-heure dans le beurre. Fait que comme j'ai pas mon drummer puis mon bassiste, ben je vais te faire 45 minutes de matériel pour te faire ton corpo de 30. Fait que je suis en train de te brûler 40. Puis là, je finis ça, puis je fais comme, ça a-tu été drôle? Ça a-tu bien été? C'est vraiment...
Ce que tu nous dis, c'est que contrairement à un band dans un bar, tu l'écoutes même pas, ça fait de l'ambiance. L'humour, comme Andy Norman disait, c'est un lanceur puis un receveur.
Exact.
Et actuellement, le receveur, il est pas là. Là. Il est comme... Il est caché.
Mais c'est ça, grosso modo, c'est on tire la balle au mur. Fait que c'est ça. C'est le fun de tirer la balle au mur, mais le problème, c'est aussi tu te sens vraiment pas bon. Puis là, après ça, tu reçois des commentaires 4 jours après. Le monde ont vraiment apprécié. Mais c'est qui le monde? C'est toi parce que tu as payé.
Puis mais là, tu parles des corpos, mais il y a quand même plein d'initiatives. Regarde, Mike, si tu écoutes, c'est pas un corpo. Puis il a quand même envahi le web avant tout le monde avec des podcasts à sa sauce à lui. Il y a plein d'humoristes qui ont fait comme fuck off. Moi, ça m'intéresse pas. Puis d'autres qui sont tombés là-dedans. Outre les corpos, là, t'as-tu trouvé que. Trouves-tu que les humoristes avaient comme devoir d'aller se présenter autrement ou bien c'était une option puis comment tu vois ça? C'est ça que je suis curieux.
C'était une option parce qu'il ne faut pas que tu fasses quelque chose qui est contre toi. Tu sais, comme tantôt quand tu disais « Moi, j'étais un gars de première vitesse », mais la raison pourquoi aujourd'hui tu es capable d'embarquer en deux, c'est que ça te plaît.
Oui, c'est sûr.
Faut pas que tu fasses quelque chose contre ton gré. Moi, je m'occupe d'un gars qui s'appelle Pierre-Yves Roy Desmarais, qu'en début d'année, il y avait genre 16 000 fans. En janvier l'année passée, il y avait genre entre 10 000 et 15 000 fans Facebook. Là, présentement, il y en a 120 000. Tu comprends? Mais en un an. Mais pourquoi?
Parce que
lui, ce qu'il a fait, c'est que pendant la pandémie, il s'est dit « Hey, je vais faire une toune qui s'appelle Travailleur autonome ». Fait qu'il a fait ça, travailleur autonome chez eux. Puis là, après, il a dit, je vais en faire un autre. Puis quand il a fait ça va mal, il a fait 2,5 millions de views sur Facebook, tu sais. Puis là, quand le bye-bye a vu ça, ils ont dit, ben, on veut avoir Pierre-Yves au bye-bye. Fait que Pierre-Yves est arrivé au bye-bye, puis là, il était supposé faire ça va mal, mais il a dit non, je vais vous composer une toune pour le bye-bye. Fait que ça a été sa toune qui a fait tous les bumpers de l'émission. Fait que tu comprendras que lui, il ne s'enlignait pas pour être très réseaux sociaux, mais il a embarqué là-dedans, puis ça lui a fait plaisir. Puis aujourd'hui, bien, plus il est rendu qu'on est obligé de devancer son show, c'est trop fou. Là, c'est, les gens en redemandent, mais parce qu'il s'est adapté à ça. Dans le cas de Mike, il a toujours continué à faire du web, mais des shows devant personne, les shows devant des chars, les shows devant personne. Mike ne fait pas ça. Mike ne fera pas ce genre d'affaires-là. Dans le cas de Guillaume, il a dit « Je serais prêt à en faire, mais bon, il va plus pour le salaire que pour le fun. » Il ne faut jamais oublier la règle des 3P, Marc.
Oublier
la règle des 3P.
Plaisir,
prestige, paye. Mais tu sais, c'est pas dur. Du plaisir devant ton ordi pendant que le monde flatte le chat, là, il est à zéro. OK, après ça, le prestige. C'est-tu prestigieux de faire pour la caisse des îles Mouk-Mouk?
Non.
Tu sais, avec tout... T'as comme 4-5 personnes qui t'auraient pas choisi. Puis là, après ça, ben, il faut qu'il y ait la paye solide. Là, fait que c'est toujours le fun d'avoir au moins deux des trois ou un très, 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 très fort.
Ouais, ouais.
Tu fais pour le salaire. Mais moi, mes artistes ne dépassent pas la demi-heure. Il y en a qui le font. Mike, dans son cas, lui, a fait autre chose. Il a décidé de faire des vous-écoutes. Fait que c'est lui puis quelqu'un qui jase, avec les personnes de l'entreprise. Fait que ça, au moins, il y a comme il y a un receveur, puis il y a... Mike, lui, dans son choix, il a choisi d'avoir vraiment des corpos qui a receveur et lanceur et receveur. Mais c'est propre à chacun. Puis c'est sûr, j'imagine que je ne sais pas si les artistes plus âgés ont décidé de faire ça, mais les jeunes n'ont pas eu le choix. Là, ils veulent survivre. Fait que je pense que l'autre bord de la pandémie, les gens vont avoir tellement hâte de sortir, puis ainsi de suite. Est-ce qu'il va en rester des corpos Zoom? Peut-être, mais on vend ça le même prix que j'étais en présentiel. Puis en présentiel, je vais te faire un peu plus long. Parce qu'il y a des rires. Salle est le fun, je vais peut-être même buster.
Non, mais c'est drôle parce que hier, j'avais une rencontre avec un gars qui a... c'est lui qui est propriétaire de Institut Leadership qui fait... Écoute, mon gars, sérieux, dans une année, là, ils ont comme 70 classes de 15-20 qui roulent, puis la patente... Quand la pandémie a pogné, il a fait « ça y est, c'est la faillite », sais-tu quoi, son chiffre d'affaires, 120%. Parce que dans ce cas-là, tu as entièrement raison, c'est du didactique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit « fais ça, tu vas être meilleur ». Ça n'a rien à voir avec « pis, tu ris, tu me trouves-tu drôle », là, tu sais, ça n'a pas rapport. C'est que lui, mon gars, il dit « maintenant, nous autres, il dit, c'est pas compliqué, hein, on se demande si on va continuer à en faire des vraies sessions en personne. Who cares? C'est des trucs sur 5 jours qui coûtent 5000 balles par personne. Là, ouais, mais là, tu diminues le prix d'autant parce qu'il n'y a plus d'hôtel, il n'y a plus... Tu fais ça chez vous tranquille, puis tu reçois grosso modo la même affaire quand tu y penses.
Oui, tout à fait.
Ça fait que le corpo straight, je pense que tu as raison, ça va rester. Puis le tout ce qui est « je te fais rire », ça risque d'être top. Mais j'étais plus curieux de t'entendre aussi sur ce que moi, j'ai décidé de faire. Parce que moi, sur Marca, depuis le mois de mars, je suis devenu suractif.
Oui.
J'ai tout réactivé mes plateformes. J'ai parti un show de cuisine drôle, tu sais, mais j'ai un angle mort, c'est un quotidien.
Oui.
J'ai monté mon site, j'ai ouvert un Patreon. J'ai profité de ce temps-là pour me mettre, si tu veux, le plus à jour possible sur ma présence numérique. Ça me ravit. Écoute, oui. C'est pas rendu encore des gros chiffres, mais ça ne fait qu'augmenter.
Exact.
Fait que c'est super intéressant. Je me disais, est-ce que tu penses que tout le monde aurait dû faire un peu de même? En même temps, t'as raison. Faut que ça t'interpelle.
Il faut que ça vienne de toi aussi en même temps. T'sais, c'est comme moi, je vais te donner un exemple. J'avais une série qui s'appelle Backstage avec Michel Grenier. J'en ai fait pendant 2 ans. J'ai fait.
Je les ai écoutés.
C'est ça, j'ai fait. Ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait. J'ai fait 27 épisodes. Puis la joke, c'est que moi, je voulais. L'idée de ça, c'est que j'ai quand même une coupe d'écoute, mais le monde dit hey, pourquoi tu n'en fais pas d'autres? Mais la joke, c'est que des sujets, j'en ai pas 800. Là, à un moment donné, c'est en business. Il m'en reste peut-être 2 ou 3, mais là, je me dis, je pourrais en faire 2 ou 3.
Toi, sais-tu ce que tu montais? C'était pas autant un podcast qu'une formation de gérant.
Oui, c'était ça.
Tu pourrais quasiment vendre ça de même. Tu pourrais les prendre, les packager, et dire, c'est une formation de tant d'heures, ça coûte tant. Puis quand tu écoutes ça, tu vas savoir quoi faire, quoi ne pas faire si tu veux devenir gérant. Pour vrai? Parce que t'es bon?
Ouais. Exact. Fait que j'ai... Puis, à un moment donné, c'est que les sujets viennent à manquer, mais toi, dans ton cas, c'est que tu t'abreuves de tous les journaux, les nouvelles du jour, tout ça. T'es un gars qui lit beaucoup. Fait que si tu le faisais déjà, c'est juste, c'est ajouter une corde à ton arc. Puis les gens aujourd'hui, oui, ils ont beaucoup de choix, mais si tu offres beaucoup d'affaires et tu réussis à aller chercher un fan, il va rester fidèle après.
Oui.
Faut que tu offres, faut que tu ailles. Faut que tu te différencies de la masse, faut que tu trouves une façon d'être à toi-même, d'arriver justement. Angle mort, c'est tellement un bon nom parce que tu arrives avec un angle que personne n'avait vu, tu sais, puis tu poses les questions, puis ça amène la personne qui t'écoute à réfléchir. Tu sais, c'est comme moi, tu sais, j'ai fait ce que j'aime aujourd'hui parce que je suis ton cobaye, là, mais ce que j'aime aujourd'hui du podcast qu'on est en train de faire, c'est que dans tous les podcasts, normalement, on parle tout le temps de « raconte-moi la fois que dans telle loge, j'ai passé telle affaire ». C'est un peu ça que le monde m'invite. Mais là, je me fais inviter pour rebondir sur quelque chose que toi, tu as dit cette semaine.
Ouais.
Ce qui est le fun, c'est que peu importe l'invité que tu vas recevoir, ça va toujours être une nouvelle façon de voir la personne.
Ouais, mais c'est ça qui est le fun.
Fait que la personne ne se répétera pas.
Ouais, deux choses. Angle mort, c'est Yann Thériault, sans s'en rendre compte, qui m'a donné cette idée-là.
OK.
Il me disait, Marc, il dit, tu devrais vraiment faire un podcast. Il dit, t'es le meilleur, toi, pour trouver l'angle mort dans l'actualité. J'ai fait calvaire, c'est ça le titre, pas vrai? Sérieux, mais il sait, j'y avais dit. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai une phrase, moi, que j'adore, qui est, quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Fait que moi, j'aime ça que les gens soient débattent, arrivent avec un autre point de vue, etc. Puis le monde aime ça le faire avec moi parce qu'ils savent, de un, que je les écoute, puis de deux, ils se font pas dire, t'es donc ben calme. C'est pas vrai que je pense de même. Ça fait que je suis heureux que tu vois ça parce que dans la formule du vendredi, c'est littéralement, tant mieux si t'as pas vu ça comme moi. Je peux juste m'en féliciter, là, tu sais.
Oui. Puis aussi, c'est un sujet qui me touche, qu'est-ce que tu es en train de dire, parce que tu es en train carrément de parler de liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est ce qui permet de se forger un argumentaire.
Oui.
Sans liberté d'expression, on ne peut pas échanger des idées.
Mais non.
Si on tient juste avec du monde qui se dise contre le masque, exemple, on a eu ça dans les derniers mois, un débat contre, un débat pour. Bien, essaye d'avoir quatre amis qui sont pour, quatre amis qui sont contre. Après, ça va t'aider, toi, à savoir si tu es pour ou si tu es contre. Essaye d'avoir différents. Essaye de trouver l'angle mort de chaque affaire.
Ouais, ouais.
Tu vas être capable de. Fait que c'est un peu la même chose. C'est la liberté d'expression, c'est à ça qu'elle est censée servir. C'est d'être capable d'apporter une discussion sans être d'accord. Et toi, Marc, t'es un des seuls gars que je connais que dans des podcasts, il y a une phrase qui t'appartient. Tu dis, je suis pas d'accord. Tu vas le dire souvent, puis tu le dis tellement bête. Mais en même temps, tu le dis bête, mais t'es pas bête. Tu comprends-tu? C'est que ton cerveau est déjà parti. Fait qu'il y a un show de boucan dans ta tête, tu vas faire « je suis pas d'accord ». Mais je sais que t'es pas méchant parce que je te connais, mais je suis sûr qu'il y a des gens peut-être qui vont te regarder et vont faire « je pense que Marc, il est choqué ». Il est choqué.
Non, mais t'as raison.
T'es pas choqué.
Ouais, puis je sais que tu fais référence aussi à mon passage au carré de sable de Bruno.
Ouais.
De Pierre-Bruno Rivard. Entre autres, ouais, il me parlait, puis j'ai fait non. Puis là, il était là, parce que là, je parlais de culture du viol, puis tout. Puis il s'était reculant en voulant dire, il va-tu là? Oui, je vais aller là, mais je ne vais pas là parce que je suis contre ça. C'est une démarche tout à fait sensée, mais non, je ne suis pas d'accord avec les mots. Puis là, tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est parce que c'est ça. Je veux dire, puis tu l'as très bien dit, puis tu sais, dans ton exemple, tu dis. C'est important parce que pour les gens, pour se faire une idée, fine, mais pour soi-même aussi. Moi, il y a un de mes amis un jour qui m'appelle, il dit « Hey, là, il dit la fille qui était là, j'étais à la radio, j'étais en train de parler de je sais pas quoi. » Il m'écoute dans son char, il m'appelle. « Là, pourquoi la fille n'est pas d'accord avec toi? » Je dis « Yann, j'ai dit, quand quelqu'un dans le studio n'est pas d'accord avec moi, ça veut dire qu'il y en a d'autres dans leur char aussi qui ne sont pas d'accord, mais je ne suis pas au courant. » Fait que moi, je déballe mon affaire. Hein? « Mon Dieu, Marc Wallard vient de parler, on n'a plus rien à dire, c'est pas vrai. » C'est que si elle me dit « Ah non, telle affaire », moi je réponds, mais en précisant ma pensée, je suis gagnant,
tout à fait.
Pas perdu.
Exact.
À moins qu'elle me peinture dans le coin et que oups, j'étais dans le champ, ça peut arriver, mais ça fait que moi, c'est pour ça que je trouve que, mais pour ça, il ne faut pas que tu ailles d'égo, il faut que tu acceptes que des fois, tu as tort, puis ah, ben c'est vrai. Moi, tu dis que je suis rapide à dire « je suis pas d'accord », fine, mais je suis très rapide à dire « ah, c'est bon, ouais, c'est vrai, c'est un bon point », puis direct, là.
Non, c'est pas un défaut. C'est juste que qu'est-ce qui me fait rire, c'est que dans des podcasts ou des, tu sais, les gens aujourd'hui, on n'aime pas la confrontation. Fait que ce qu'on va souvent faire, c'est plus, oui, mais t'as pas pensé, tu sais, au lieu de dire, je suis pas d'accord.
Ouais, non, je comprends.
Je vais essayer de te flatter. Je veux pas trop. Je veux pas trop. Exact. Hey, Marc, t'as pas pensé dans ton podcast, au lieu de dire non, je suis pas d'accord. Ça, mais toi, tu as le je suis pas d'accord. Ça t'honore, mais ça me fascine. Mais je suis sûr que des fois, certaines personnes pourraient le percevoir comme si tu es choqué.
En même temps, il faut s'améliorer. Moi, le but, c'est pas d'être irritant. Bien au contraire. D'ailleurs, si j'ai des félicitations, c'est exactement pour ça. Tout le temps, quand je reçois du monde qui m'écrit, qui suit Angle Mort, c'est tout le temps cabarouette, ça fait du bien, un gars qui n'est pas en train de gueuler, puis de chialer, puis que là, en tout cas, qui se prononce. Parce que c'est pas parce que je suis gêné de me prononcer. Je me prononce sur absolument tout. Mais mon fun, c'est le pourquoi des choses. Mettons, tu m'as dit masque ou anti-masque. Pourquoi ce débat-là existe? C'est ça, moi, Angle Mort.
Ça
vient d'où, ça?
C'est ça.
Peut-être qu'il peut exister, mais moi, je pars là-dessus.
Exact.
Fait que ça fait en sorte que ça vient avec une écoute. Tu ne peux pas juste déblatérer, mais il faut que tu écoutes ce qui se passe. Tu sais. En tout cas, bref. T'as-tu un mot de la fin, Michel? Parce que j'ai été ravi de notre...
Moi aussi. C'est super le fun. Je te donnerai des pointers parce que j'ai trouvé des trucs pour améliorer ton épisode du vendredi.
Fait
que,
okay.
T'sais, entre autres, t'sais, la question devrait toujours apparaître en bas.
Ouais. Non, on checkera ça. On parlera de ça.
On parlera de ça hors d'onde, mais je pense vraiment que ça va être le fun. Puis, c'est comme je te dis, la force de ton podcast, c'est que tu amènes des personnalités, justement, qui ont fait Carré de sable sous écoute, mettons, Géraldin, puis qui ont toujours raconté la même affaire. Mais là, dans ton podcast, comme c'est toi un peu qui impose le sujet,
et
c'est
très
chaud d'actualité. Puis ça permet, puis on est obligé de t'écouter aussi pour en jaser, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'il y a quelque chose de, je pense que tu vas emmener ça ailleurs, tu vas montrer plein d'artistes et plein de personnalités sous un nouveau jour, fait que je t'encourage à continuer à le faire.
Super, merci mille fois, je suis très heureux que tu aies été là au début, ça a fait une grosse différence.
Un rêve.
À plus.